avertissement préliminaire. Nous allons méditer un texte qui traite des épreuves de la vie et du secours que Dieu nous apporte dans ces épreuves. Alors il y aura dans mon propos, bien sûr, l'évocation des épreuves qui nous frappent dans nos propres circonstances, telles qu'on les connaît, et à propos desquels nous sommes susceptibles de nous encourager mutuellement. C'est-à-dire que j'en exclus totalement les épreuves dont je ne connais rien, à savoir celles que vivent aujourd'hui dans le monde des millions de nos frères. Parce que devant eux, il s'imposerait que je me taise et que je les laisse parler. C'est un psaume qui va retenir notre attention ce matin, mais pour l'instant, je ne vais pas vous dire lequel. Je vais simplement vous le lire, dans un premier temps, pour que vous tentiez d'en percevoir quelque chose qui vous aiderait à le saisir ensuite. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Ainsi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, la lance, il l'a rompu, les chars de guerre, il les a brûlés au feu. Arrêtez, dit-il, sachez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est le psaume 46. Il va être projeté, mais vous pouvez le prendre dans votre propre Bible si vous le souhaitez. Un titre pour l'ensemble de ce texte. Louange à Dieu, son secours ne manque jamais. Présentation du psaume. Au chef de chœur, bon, adressé au chef de chœur à qui on remet la partition pour qu'il en dirige l'exécution, sauf évidemment qu'on n'a pas la musique, on a seulement les paroles. L'aurait-on chanté cette musique aujourd'hui ? Des fils de Corée, ce sont les auteurs du cantique. Les fils de Corée, une famille de Lévites, ils assurent le service du temple. Les uns sont portiers, gardiens, d'autres chanteurs, musiciens, c'est le cas ici. Et des fils de Corée, nous avons 12 psaumes. À la Lamotte, c'est marrant ça, à la Lamotte. Traduction littérale. Pour jeune fille, recommandation donc probablement pour que le chant soit exécuté par des voix féminines, c'est pourquoi on traduit généralement, c'est sans doute ce que vous avez dans votre Bible, pour voix de soprano. Recommandation qui vise à harmoniser le texte et la musique. les voix hautes étant bien appropriées pour exprimer les sentiments de joie qui, après la délivrance, montent du cœur. Suggestion à envoyer aujourd'hui à ceux qui fabriquent des cantiques et qui, quelquefois, nous font dire quelque chose dans les paroles et le contraire dans la musique. Parenthèse. Non, pardon, j'ai fait une fausse manœuvre. Ce psaume trouve son inspiration dans les événements vécus par le peuple de l'Ancien Testament. Il s'inscrit donc dans l'histoire, l'histoire vraie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un endroit donné, dans des circonstances bien déterminées, survient une épreuve. Et voilà que dans le danger qui les menaçait, ils expérimentent la présence et le secours de Dieu. Et vient enfin la délivrance. Alors quelques hommes se lèvent. « Mes frères, dit-il, il faut alors qu'ensemble nous chantions la louange de Dieu. » Du coup, on a envie de savoir ce qui s'est passé, dans le détail. Hélas, ni les mots de présentation du cantique, ni son contenu n'indiquent les circonstances dans lesquelles il a été composé, contrairement à d'autres, comme par exemple de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Par contre, le type d'événement est établi. Il s'agit d'un événement guerrier. Vous voyez la description, des nations s'agitent, des royaumes s'effondrent, combat jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à la liste des outils de la guerre de l'époque, bien sûr, l'arc, la lance, les chars. On pourrait se hasarder quand même à proposer l'événement suivant. Nous sommes au temps du roi Josaphat. Plusieurs peuples se sont coalisés contre lui. Ils vont lui tomber dessus d'un jour à l'autre. Une grande multitude s'avance contre toi, lui rapporte-t-on. Alors, s'unissant autour de leur roi, on vient de partout. On se présente devant l'Éternel, on implore l'Éternel, et l'Éternel répond, je résume, « Ne craignez pas, allez vers eux, c'est pas à vous de combattre, c'est à Dieu. Seulement vous, confiez-vous en l'Éternel. » Et voilà que l'Éternel leur accorde une totale délivrance. Alors pourquoi cet événement plutôt qu'un autre ? Eh bien, parce que le texte, dans ce cas-là, précise qu'alors, les fils de Corée se levèrent pour louer l'Éternel. Alors, peut-être, avons-nous ici l'un des chants composés et chantés à cette occasion-là. Venons-en donc au cantique, vue aérienne, 3 strophes. Un refrain. Première strophe, c'est un témoignage. Confiance, Dieu est notre secours. La strophe 2 est une analyse. Quels sont donc les effets du secours de Dieu ? C'est sur ces deux strophes que portera l'essentiel de notre méditation. La troisième étant plutôt une conclusion. La troisième strophe, c'est un tableau, la destruction de l'ennemi. Première strophe. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours prêt lorsque survient la détresse. Eh bien, vous n'attendrez pas le dernier verset pour connaître la conclusion. La voici. En introduction, affirmée fortement comme le facteur qui, dans les moments graves de l'existence, domine tout. Manifestement, l'auteur vient de vivre l'événement. L'impression a été forte, la démonstration puissante. Alors j'ai comme envie de dire, il arrive en courant, j'ai quelque chose à vous dire. Alors il va vous parler de l'événement, bien sûr, de la manière dont il l'a vécu. Mais je ne peux pas attendre de vous dire l'essentiel. Ce qui domine tout, ce qui explique tout, ce qui résume tout dans la circonstance, le secours de Dieu. Nous avons eu il y a quelques années un accident de voiture, un accident grave. Alors j'ai laissé plusieurs d'entre nous à l'hôpital, je suis rentré le lendemain matin, j'arrive dans la maison de mes parents, dans la cour, maman s'approche, s'avance vers moi, elle me dit « Et alors ?» Je ne sais pas, je n'avais rien médité là-dessus. Je lui ai répondu « La grâce de Dieu ». Et je la vois se retourner vers mon père qui était 2 mètres derrière et de répéter « La grâce de Dieu ». Alors on allait raconter tout ça dans le détail, en long et en large. Mais y avait-il autre chose d'important à dire ? Le secours de Dieu. D'emblée, notre psalmiste fonde du coup là-dessus une certitude, une assurance pour toute la vie. Toute la vie de celui qui place sa confiance en Dieu. Et cela lui fait dire aussi, troisième ligne, nous ne craignons rien. Et trouvant la démonstration d'un principe qui va bien au-delà de la circonstance présente, du lieu, du moment, qui est général, absolu, permanent, nous ne craignons rien. J'ai lu que dans l'hébreu, le verbe craindre ici est au présent continu. C'est-à-dire que ce n'est pas le présent du moment présent, en quelque sorte, ce sera encore le présent tout à l'heure, le présent demain, le présent à tout jamais, le présent de tous les événements qui viendront encore. Nous ne craignons rien, puisque Dieu est pour nous un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Et cette assurance est si forte pour notre auteur qu'elle couvre ce qui pourrait arriver de pire. Voyez la suite. Nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, bousculant au fond des mers, etc. Situation, à mon sens, pire qu'un tsunami ou un tremblement de terre classique. On pourrait même peut-être ici évoquer une sorte de fin du monde. Pourtant, notre Lévite ici ne vient pas de vivre une catastrophe de cette ampleur, d'autant plus qu'il en a été complètement délivré. Mais sur ce qu'il vient de vivre, il fonde une assurance définitive, sans exception possible. Nous ne craignons rien, même lorsque les flots de la mer, saisis de la folie des hommes, en viendraient à s'attaquer aux montagnes et à les faire basculer, puisque Dieu est notre rempart, notre refuge, notre secours. Et puis regardez bien, un secours toujours offert. Mais que c'est beau d'entendre ça. Si je réunis les différentes traductions de ces mots-là, je trouve 3 variantes qui enrichissent le sens. Certains traduisent un secours toujours présent. Je crois que c'est ce qu'on vient de développer. D'autres disent un secours toujours prêt. C'est-à-dire quand vous appelez au secours, tout est déjà prévu. Et puis alors le texte que nous avons ici, toujours offert. C'est-à-dire que de la part de notre Dieu, nous avons une offre permanente de secours. Tel message, tel est le message pour nous des fils de Corée, qui nous invite à passer d'un événement particulier, de la vie vécue à l'ensemble des événements possibles de la vie. D'une expérience du secours de Dieu à une confiance totale pour l'avenir. Il nous invite sans aucun doute à louer notre Dieu pour son secours, gravé dans les circonstances passées de l'existence. Nous aurons encore peur. C'est souvent que j'ai peur, même pour des choses qui n'ont pas de sens. La crainte nous saisira encore. C'est toujours ainsi d'ailleurs, quand on appelle au secours. Mais c'est à la confiance qu'il nous invite. Il peut arriver pire demain que ce que nous avons connu. Et notre monde aujourd'hui semble bien nous l'annoncer. Hein ? Mais fondamentalement, il n'y a rien à craindre. Dieu est pour nous un rempart, un refuge. Un secours. Deuxième strophe. Je vous laisse en reprendre connaissance. Du secours qu'il y a en Dieu, le psalmiste vient de nous livrer, donc dans cette première strophe, son témoignage reconnaissant. Il va maintenant tenter une espèce de description pour nous faire saisir la réalité et les effets de la présence de Dieu auprès des siens lorsque ceux-ci sont éprouvés. Alors on va d'abord voir le détail des mots pour comprendre ces deux images clés, le fleuve, la cité, et puis s'arrêter ensuite un instant sur le style, les mots. Le fleuve. Bon, le fleuve, c'est d'abord l'eau. L'eau qui évoque un élément essentiel à la vie. L'eau abreuve les êtres vivants, fertilise le sol. Le fleuve, c'est encore le voyage de l'eau, les différents bras du fleuve assurant la répartition de l'eau sur tout le pays. Le fleuve distribue la vie. La cité de Dieu. Alors, évocation, bien sûr, de la Jérusalem de l'époque, puisque c'était alors la ville où le Dieu des cieux avait voulu faire sa demeure terrestre au milieu de ces hommes qu'il avait voulu appeler son peuple. Et voilà que le fleuve et la ville sont associés. Parce que le fleuve pénètre la ville, jouxte la ville, ou encore mieux, entoure la ville de ses bras. Et à cette époque-là, le fleuve est un moyen naturel et essentiel à la protection de la ville. Il faut le franchir pour accéder à la ville. Telle est la situation des grandes cités comme Babylone, comme Ninive, où le grand fleuve apporte vie et sécurité. Oui, mais voilà, on est à Jérusalem. Hein. Pauvre et fragile Jérusalem. Elle est construite sur une colline. Or, dans un sens, ça peut être un élément de sécurité, mais quand même, elle n'a pas de rivière. Pas de grand fleuve, Jérusalem. Le Jourdain, il est là-bas, dans la vallée. Ésaïe décrit bien la fragilité de cette cité. Israël, dit conscient de sa faiblesse, avait, on le sait bien dans son histoire, avait souvent cherché le secours, non point en Dieu, mais dans ses puissants voisins. Ce fut toujours un temps de désillusion, de malheur, d'asservissement. Et voilà le moment où le prophète annonce le secours de Dieu. Et il dit ceci, regarde bien Jérusalem, séjour assuré, tente qui ne sera pas ébranlée. Une tente pas ébranlée, hein, dont les pieux ne seront jamais arrachés, hein, les piquets de tente, hein, dont aucun cordage ne sera enlevé. Et il ajoute l'explication. Mais c'est que l'Éternel est puissant en notre faveur. Et écoutez bien ça, il nous tient lieu, l'Éternel, de rivières. Il nous tient lieu de larges fleuves. C'est lui qui nous sauvera. Fin de citation. C'est exactement ce que publie notre psaume. Elle est bien faible, la cité. Mais Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Notre secours est en Dieu, qui a voulu faire de nous sa demeure, bien sûr non plus à Jérusalem aujourd'hui, mais en chacun de nous. En lui seul, nous avons la vie, la protection, le secours. Voilà, c'était pour les mots, le fleuve, la cité. Venons-en au style. Un style poétique, ça, on ne peut pas le nier. Et pourtant que notre auteur juge approprié pour que par son moyen, nous puissions comprendre ce qu'est en nous, dans les difficultés, la présence de Dieu. Alors, je me suis demandé comment le lire, il est un fleuve. Pas comme ça. Parce que vous le savez, quand on lit à haute voix, comme c'est le cas en cet instant, lire c'est interpréter. Alors comment interpréter ces trois mots? Est-ce que ce serait « il est un fleuve » comme on le dirait dans un conte? Il était une fois, dans un merveilleux royaume, un bon roi qui venait toujours au secours de ses sujets en difficulté. Ouais, sauf que ce n'est pas un conte. Pourtant, est-ce que dans les difficultés de la vie, on ne rêve jamais, qui que l'on soit, même athée convaincu, est-ce qu'on ne rêve jamais d'un secours merveilleux qui viendrait d'ailleurs, qui nous tomberait du ciel, on le dit quelquefois? Parce que la présence de Dieu dans la vie, on ne la voit pas comme on voit quelqu'un qui marche à côté de nous en chair et en os. N'est-il pas même naturel, j'entends par là, inscrit dans notre nature, que Dieu pourrait être un secours quand nous avons besoin de secours? Quand autour de nous, on ne trouve pas de secours? Sauf des secours qui nous font eux tellement rêver, mais qui nous déçoivent à tous les coups. Il est bien dans la présence de Dieu, dans le secours de Dieu, quelque chose qui tient du mystérieux, du merveilleux, de l'indescriptible. Oui. Deuxième interprétation, ce serait celle de la déclamation. Sur le ton de la conviction, comme on affirmerait une vérité absolue. Les montagnes sont ébranlées, mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Eh bien, parce que oui, Dieu existe. Il n'y a pas à rêver d'un secours imaginaire. On peut l'affirmer. Dieu offre à tout homme son secours, car tout le monde a besoin du secours de Dieu. Et il n'y a pas de secours en dehors de lui. À commencer par celui de se réconcilier avec lui. Le pardon de Dieu, c'est le premier et le plus grand de tous les secours, toujours offert. Et c'est le garant de tous les secours dont nous pouvons avoir besoin dans la vie. Parce que si en Jésus, il a donné sa vie pour nous, alors pas de risque qu'un jour ou l'autre, il nous laisse tomber. Dans les difficultés de la vie, oui, on peut le dire vraiment, Dieu est là. Dernière interprétation. Je l'affectionne particulièrement. Alors vous me trouverez un peu trop romantique, sans doute. Je l'affectionne particulièrement parce que elle me semble s'approcher au plus près de l'expérience qu'on fait de la présence de Dieu dans les épreuves. Elle tient d'une image, celle de l'orchestre interprétant une symphonie. Et ce que je vais décrire, vous le trouverez 10-20 fois dans les symphonies de Saint-Saëns. On vient d'entendre un thème puissant, impressionnant en sonorité normale, une centaine d'instruments. Hein. Et puis, l'intensité faiblit. Et puis, voici une flûte, toute seule. Une petite flûte grande comme ça, quelquefois. Et il s'en dégage une mélodie douce, apaisante, contraste bienfaisant. Il y a le rugissement des flots, l'ébranlement de l'épreuve, mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Elle se manifeste comme ça, me semble-t-il, la présence de Dieu, comme une mélodie de flûte. Comme si l'ensemble de l'orchestre se retirait pour l'écouter, qui nous dit alors, il est une présence bienfaisante dans la solitude des interrogations et des inquiétudes. Il est une lumière quand on ne comprend rien à ce qui se passe et qu'on craint tout. Il est une sécurité. Quand s'effondrent tous nos appuis, il est une paix dont on va soi-même s'étonner, tellement elle contraste avec les événements. Il est une cité, mes frères et sœurs, sans cesse menacée par l'ennemi. Et non seulement forte à la menace, mais nous ne sommes pas plus solides qu'une tente attachée avec des bouts de ficelle. Lui seul, notre Dieu, peut être notre solidité, notre sécurité. Il est un fleuve, mes frères, qui va à la source, qui a à sa source la source de la vie. Il est une rivière dont les courants nous font du bien, nous garde dans l'assurance du salut même au moment de la mort. Nous irrigue de la paix de Dieu, de la consolation de Dieu. Et parfois, nous l'avons vécu d'une joie profonde à la place des pleurs. Et à ceux qui aspirent aujourd'hui à un secours, mais qui n'ont pas encore fait le pas de la confiance en Dieu, sachez que dans ce domaine, si vous faites ce pas-là, si vous osez ce pas de la confiance, vous risquez pas de vous tromper. Parce que la présence de Dieu et ses bienfaits, vous les identifierez avec autant de certitude bienfaisante qu'un solo de flûte dans une symphonie bruyante. Résumons. Sur les événements qu'ils viennent de vivre, les fils de Corée, ils ont commencé par l'essentiel. C'était la première strophe. Témoignage reconnaissant pour le secours de Dieu. Et sur cette expérience, confiance que ce secours ne manquera jamais. Ils ont médité ensuite, c'est la strophe numéro 2, sur la consistance de ce secours, pas toujours une délivrance immédiate, mais toujours la présence bienfaisante de Dieu auprès des siens. Venez, nous disent-ils maintenant. Mais où nous emmène-t-il? Il nous emmène à la fin de l'histoire. Pas de leur histoire, la fin de l'histoire du monde. Hein? Tous les combats ont cessé? Tous? Jusqu'aux confins de la terre? Toutes les armes sont détruites! L'arc brisé, la lance rompue, les chars brûlés. Un seul mot de Dieu a suffi. Arrêtez. Dans ce monde de guerre ouverte contre Dieu, où l'ennemi inspire le mal tant qu'il peut, vient le moment de la fin, du jugement. Ils le savent, les fils de Corée. Et ils le savent si bien qu'ils en parlent comme si c'était fait. Venez contempler, disent-ils. Ce mot contempler nous heurte un peu, parce que quand même, contempler un champ de bataille, c'est pas top, hein. Mais que contemple-t-il? Il contemple la victoire de Dieu dans ce moment d'ultime secours. Où ont-ils donc trouvé pareille assurance? Eh bien, encore dans l'expérience qu'ils viennent de faire du secours de Dieu, dans l'épreuve qu'ils viennent de vivre. Parce que cette victoire finale sur l'ennemi, elle est en germe aujourd'hui, y compris dans nos circonstances et dans nos vies. La victoire finale sur l'ennemi, elle est en germe chaque fois que nous résistons à l'ennemi. Et nous résistons à l'ennemi chaque fois que nous faisons le choix de la confiance en Dieu et de son secours toujours offert. Elle est en germe chaque fois que nous choisissons une fidélité à la parole de Dieu. Parce que en faisant cela, nous faisons échec à la tentative constante de notre ennemi de nous en détourner. Elle s'annonce, la victoire finale, parce qu'aujourd'hui déjà, des victoires sur l'ennemi sont remportées. Victoire sur l'ennemi, dans chaque secours que notre Dieu nous accorde aujourd'hui. Défaite de l'ennemi chaque fois que Dieu met sa paix dans nos cœurs troublés. Elle viendra donc assurément la victoire définitive. Et c'est cette victoire-là que nous sommes déjà invités à contempler. Il reste juste un dernier mot. C'est le refrain. Avec nous, l'Éternel des armées célestes. Une expression pour dire la toute-puissance de Dieu. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Si vous allez chercher l'histoire de Jacob, vous y trouverez ce que Jacob a découvert, le Dieu de la grâce. Tout est réuni pour que nous puissions être secourus. Dieu peut nous secourir. Et Dieu veut nous secourir, puisqu'il fait grâce. C'est donc bien le refrain des combats de la vie. Jusqu'au jour où on ne parlera même plus de secours, puisque l'ennemi vaincu, il n'y aura plus de danger. Amen.